Durant ce mois béni de Ramadan, au cœur de l'islam vous propose de commencer vos journées avec un brin de spiritualité. Nous serons en ligne en votre compagnie tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, à partir de 6h du matin pour la rediffusion du meilleur de ce qui se trouve dans notre grenier. Quant au vendredi, vous découvrirez de nouvelles émissions avec de nouvelles thématiques proches de l'actualité. Au cœur de l'islam, c'est tous les jours sur Radio Alger Chin 3 de 6h à 7h du matin et sur x.com, au cœur de l'islam, Chin 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à vous et merci de nous accompagner sur le sentier de la spiritualité. Puisse-t-il faire que nous soyons des cheminants sur la voie de l'excellence pour accéder à la station de la proximité. Salam alaikum Kamel Shekat.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alors Kamel Shekat, nous nous intéressons durant ce mois de Ramadan à notre vie intérieure, à Hayat al-Quloub. Nous essayons à travers les aphorismes de Ibn Ata'illah Sakandari d'éduquer notre âme, chose qu'on appelle tarbiyah ruhiya, qui n'est pas une innovation. J'espère, tarbiyah ruhiya, ou peut-être préférez-vous ilm tazkiya, un terme déjà cité dans le Coran, ou dans, surtout dans Sourate Shams, où Dieu subhanahu dit « وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا نَفْس
أَوْ رُوحَ » Oui, absolument.
Ilm tazkiya, Kamel Shekat, c'est pas faux de parler de ilm tazkiya ?
Même parler de soufisme n'est pas du tout faux.
Mm-hmm. Mais le terme en disait, le Hujwiri le disait, que le terme soufisme n'existait pas du temps du prophète alayhi salatu wasalam. Donc certains rigoristes considèrent que c'est une innovation bid'a.
Beaucoup de choses n'existaient pas au temps du messager de Dieu alayhi salatu wasalam. Il y a même beaucoup d'autres notions qui n'existaient pas à l'époque du messager de Dieu alayhi salatu wasalam. Quand vous étudiez la biographie du messager de Dieu et les jugements aqdiyat le khulafa al-arba al-rashidin, les quatre califes éclairés. Si je devais prendre comme argent comptant ou pour argent comptant ce que vous venez de dire, ou ce savant que vous venez de citer, ça n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc force est d'admettre que nous devrions carrément jeter l'anathème sur une personnalité comme Omar ibn Khattab, qui a procédé à un moratoire face à certains décrets divins, qui a même changé du tout au tout certains décrets divins, comme par exemple la distribution du tribut de guerre. Après la conquête de l'Irak, Ard Sawad n'a pas été, ou du moins le cinquième de cette fameuse terre, très très riche, n'a pas été distribué entre les conquérants, ou ceux du moins qui avaient participé à cette bataille. Il a laissé cela à la postérité. Il a raccordé donc ce verset avec d'autres versets de Sourate Al-Hashr. Il est resté, bien entendu, dans la logique du Coran. Il a privilégié beaucoup plus le maqasid que la lettre du texte, son esprit, associé à celui de tout le Coran. Et si nous devions maintenant nous laisser aller à cette nouvelle mode qui dit « Hada ma kanch fi ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam », je suis désolé, l'islam n'existerait plus. Et je pense que le comble de l'aberration, c'est quand vous voyez quelqu'un en qamis vous dit « Ana rani labs al-sunna », moi je m'habille selon la sunna. Alors il a un qamis qui a mimolé, ce qui n'était pas du tout le cas du messager de Dieu. Et puis en bas, ils portent des trainings que portent généralement les voyous. Et je suis désolé, le messager de Dieu non plus ne portait pas des trainings à l'époque. Hein.
Eh bien, Kamel Shekat, nous nous intéressons durant ce mois de Ramadan à ce livre, à cet opuscule merveilleux intitulé Hikam Ibn Ata'illah Sakandari, et dont on a dit Usul ma bihi takunu tazkiya, Risalat al-Qushayri wal Ihya wa Hikamul Judami dil Anwa'i.
Ce que nous avons cité la semaine dernière, non?
Le Judami, parce que sa tribu, sa première, ses aïeux venaient de Judama, exactement, et ils sont venus avec la conquête de l'Égypte. Alors, Kamel Shekat, fait, je commence, si vous voulez bien, avec une citation d'Ibn Ata'il al-Sakandari, en décrivant les soufis, ces gens qui ont choisi d'aller vers Dieu et qui ont délaissé la vie d'ici-bas pour être près de lui. Ibn Ata'il al-Sakandari dit: وكانت الدنيا في أكفهم لا في قلوبهم صبروا عنها حين فقدت.
Donc ils avaient le monde d'ici-bas dans au creux de leurs mains, c'est-à-dire ils ont disposé comme ils le voulaient. Ils n'étaient pas ces prisonniers dans la mesure où ils n'avaient pas le monde d'ici-bas dans leur sein, dans leur cœur. Donc ils se sont montrés patients lorsqu'ils n'étaient pas en mesure de jouir des bienfaits de ce monde.
وشكروا الله حين وجدت.
Et quand la chose était donc à portée, ils en ont remercié Dieu.
وإنما ابتلاهم الله سبحانه بالفاقة في أول أمرهم حتى تكملت أنوارهم.
Donc Dieu les a éprouvés par la pauvreté au tout début de leur affaire, on va dire, jusqu'à ce que, répétez s'il vous plaît.
حتى تكملت أنوارهم.
Donc jusqu'à ce que leur lumière au pluriel ce soit, on va dire, accompli.
Illustré
ou abouti. C'est-à-dire que leur cheminement s'était complété.
وإنما ابتلاهم الله سبحانه بالفاقة في أول أمرهم حتى تكملت أنوارهم وتطهرت أسرارهم فبدلها لهم.
Donc jusqu'à ce que, c'est-à-dire leur clairvoyance en quelque sorte se soit parachevée. Et que leur sein ou leur fort intérieur se soit purifié. C'est ça, c'est le fort intérieur, c'est ce qu'il y a de plus secret en vous.
Vous me rappelez l'ouvrage de l'Hakim Tirmidhi, traduit par Brahim Ijitan, chercheur à l'université du Louvain.
Oui.
Dans son ouvrage « Farq bayn al-qalb wal-fu'ad wal-lub wal-sir ».
Oula, c'est...
un livre malheureusement qui n'existe pas dans nos librairies. On continue avec la citation d'Ibn Ata'il al-Sakandari. Alors
fabadalaha lahum.
Fabadalaha lahum.
Donc une fois qu'ils ont atteint ce niveau, Dieu a mis le monde à leur disposition.
Fabadalaha lahum. D'accord.
Parce qu'il parle de dunya et de
exactement. لأنهم لو أعطوها قبل ذلك لعلها كانت تأخذ منهم.
Parce que si cela leur avait été acquis au tout début, ça aurait pu les happer en quelque sorte,
les distraire, les dévier.
Oui, donc une fois que cela leur a été acquis, après qu'ils aient fait en quelque sorte leur preuve, alors ils ont su en user à bon escient et ils ont été à l'image de celui à qui l'on a confié un dépôt de confiance et qui a su le préserver, et ils ont été à l'image ou bien ils se sont pratiquement conformés à l'ordre de Dieu et dépensés de ce que Dieu vous a donné. C'est une traduction un peu à la volée.
Bien sûr. Et comme dirait Abou Madian Shuaib, ma ladatul aïshi illa suhbat al fuqara, et c'est ce qu'on va essayer de faire durant ce mois de Ramadan. Alors, l'idée principale qui se dégage des hikam d'Ibn Ata'il, c'est tawakkul ala Allah kamal shakat. D'ailleurs, awil alayh, ça n'arrête pas de revenir, wa tawakkul alayh, i'tamid alayh. On commence aujourd'hui, Kamal Shekat, avec la première maxime avec laquelle il a ouvert son livre. C'est celle où Ibn Ata'il al-Sakandari dit: min alamat al-i'timad 'ala al-'amal nuqsan ar-raja'i 'inda wujud az-zalal. Alors, si vous permettez, Kamal Shekat, pour mieux comprendre cette maxime, décortiquons les mots utilisés par Ibn Ata'il al-Sakandari.
Alors, la traduction qui en a été faite par Jean-Louis Michon est la suivante. Le signe que l'on compte sur l'action, c'est la diminution de l'espérance quand il y a chute. Bon, avant de commencer, parce que vous avez dit, vous avez cité Abou Madian Shuaib, rahmatullahi alayh, c'est une réalité, parce que le messager de Dieu, alayhi salallahu alayhi salam, quand il priait Dieu parmi l'ad'i al-ma'tura, disait وَأَلْهِمْنَا فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ. Il faut aimer les pauvres. Mais je n'irai pas jusqu'à exhorter les gens à penser que la vie d'ici-bas ne vaut que par l'accompagnement ou la compagnie des pauvres.
Et c'est là où l'exercice est difficile, Kamal Chakat.
Attention, non. Je préfère exhorter les gens à la compagnie des riches, mm-hmm. des gens réellement riches.
Des gens riches matériellement
ou... et humainement. Et vous savez, c'est parce que quand on parle des gens riches, vous savez, il y a beaucoup de gens riches qui sont nés dans la richesse, donc qui s'y sont faits. Il y en a d'autres qui sont nés dans des conditions super difficiles, supra difficiles, et qui sont devenus des nouveaux riches. Et puis, avec le temps, ils ont appris à devenir riches. Il y en a d'autres, et on en a beaucoup en Algérie, qui sont devenus immensément riches, mais comme Crésus carrément, surtout pendant les deux dernières décennies, mais qui restent de parfaits anciens pauvres. Vous comprenez, c'est des gens qui n'arrivent pas à devenir riches, en dépit de tout ce que Dieu leur a donné. Bon, ben, on en trouve pas uniquement en Algérie, mais on a l'impression que c'est devenu carrément à la mode. Des anciens pauvres partout où vous posez les yeux. Il est vrai que l'amour que l'on peut avoir pour les pauvres est un signe de piété carrément, mais je n'irai pas jusqu'à dire, comme disait Abu Madian rahmatullahi alayh, qu'il n'y a de goût dans la vie d'ici-bas que dans la compagnie des pauvres. Non.
Mais vous savez, Kamal Chakat, la pauvreté, comme elle est comprise par nous tous, par le commun des musulmans, et comme elle est citée ici par Abu Madian Shuaib, c'est pas la même chose.
À l'image,
les pauvres
oui,
en Dieu, bien
oui,
sûr.
Oui.
Dans la conférence des oiseaux de Fariduddin Attar, Mantiqou Tayr, c'est une des stations les plus importantes, Maqam al-Fuqr.
Oui.
Alors Kamal Chakat, on commence à disséquer cette maxime d'Ibn Ata'illah al-Sakandari où il dit « Min al-i'timadi ala al-amali nuqsan al-raja' inda wujud al-zalali ». L'i'timadi ala al-amal, ça veut dire quoi, Kamal Chakat?
Ceci me renvoie au fameux hadith du messager de Dieu, alayhi salatu salam, là où il a dit à ses compagnons « La lan yedhul al-jannata ahadun bi'amalih »« Nul d'entre vous n'accédera au paradis par son œuvre ». قالوا ولا انت يا رسول الله من بطوا ومساجد الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته même pas moi à moins que mon seigneur que Dieu ne me couvre de sa miséricorde لن ندخل الجنه الا برحمه الله nul d'entre nous n'accédera au paradis que par la miséricorde de Dieu. Pourquoi cela? La vie, le temps que nous passons dans ce monde d'ici-bas, aussi long soit-il, allez, partons du principe que chacun d'entre nous est appelé à vivre 1000 ans. Qu'est-ce que 1000 ans par rapport à l'éternité? Oui, mais qu'est-ce que ces 950 ans qu'a vécu Noé alayhi salam par rapport à Jannat al-Khuld? Par rapport à ses propos...
Hein, le barzakh aussi.
Non, ne parlons pas du barzakh. Parlons uniquement de ce qui va venir après.
Mais ça peut aussi durer éternellement, Kamal Chakat.
Ça
les
peut
premiers,
durer...
ceux qui ont vécu au début de la création...
Oui, ça fait...
Depuis
ça
quand sont-ils dans le maqam al-barzakh?
Oui, mais j'occulte cela. Je vais carrément dans l'absolu, dans l'infini.
Malheureusement, nous l'occultons tous,
oui,
Kamal Chakat.
Oui, mais juste pour que les gens aient une idée, une échelle avec laquelle comparer. Que valent 1000 ans par rapport à la parole de Dieu qui dit « Hum fiha khalidun » en bien ou en mal. Mm-hmm. C'est quoi 1000 ans?
Le rôle de l'éternité.
Oui, imaginez 1000 ans que vous passez ici à travailler, à faire votre œuvre. Et une éternité où vous allez jouir à profusion de ce que normalement vous avez donné. Est-ce que, honnêtement parlant, est-ce que le prix ou ce que vous allez récolter là-bas a été dûment payé par votre œuvre? Impossible. Et c'est pour cela que nous avons un autre hadith du messager de Dieu, alayhi salatu salam, que nous avons déjà cité ici, man nuqisha al-hisab a'uddib. Quiconque trouve matière à négocier ou à rechigner sur son compte va fatalement être tourmenté en enfer. C'est l'histoire d'un homme qui a vécu 500 ans et qui a voué ses 500 années à une assiduité au culte comme nul ne l'a fait auparavant. Et le jour du jugement dernier, après avoir pesé son œuvre, Dieu lui dira « Udkhulil jannata bi rahmati »« Va au paradis par ma miséricorde ». L'homme dira « Mais j'ai œuvré aussi, mais j'ai fourni un effort ». D'accord. L'homme en question, dans certaines versions, il est dit qu'il était borgne. Donc il ne voyait que par un œil. On va prendre l'œil qu'il avait, on va le mettre sur la balance face à toute son œuvre. Une œuvre qui comptabilise 500 années d'assiduité au culte. L'homme tel qu'il nous est narré par la tradition prophétique passait son temps à l'adoration de Dieu et à son évocation. Il était en prière, tant diurne que nocturne, il était dans l'évocation de Dieu en continu, et il était dans le jeûne en continu. En dépit de cela, son œil va faire pencher ou va peser beaucoup plus que son œuvre. Donc voici, à travers cet œil, un bienfait de Dieu qui t'a été accordé pendant ces 500 ans. Il vaut de loin toute l'œuvre que tu as fournie. Alors maintenant, puisque nous parlons d'action et non de miséricorde divine, va en enfer. C'est bon, tu vas être tourmenté. Parce que ce que tu as, ton billet pour le paradis, non seulement tu n'as pas pu le payer, mais tu ne pourrais jamais le payer quand bien même tu ferais ce que tu pourrais faire. Vous comprenez? Personne ne peut le faire. Et le prophète alayhi salatu wasalam s'est mis dans cette position, même pas moi, à moins que Dieu ne me couvre de sa miséricorde. C'est comme si vous aviez l'occasion d'acheter, je ne sais pas moi, une île paradisiaque au prix d'un kilo de semoule. Ça ne passe pas, ça ne peut pas passer. Avec Dieu, mine de rien, c'est le deal, il est à cette échelle. Si nous sommes destinés au paradis, inshallah ankunu min ahl al-jannah, eh bien nous allons tout simplement nous acheter un bout de paradis, un bout de bonheur, un bout de rêve, avec même pas le prix d'un kilo de semoule. Somme toute faite. C'est ce qui va se passer. Alors quand il dit
من الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل.
من الاعتماد على العمل
نقصان الرجاء.
نقصان الرجاء
عند وجود الزلل.
Alors quand est-ce qu'on se rend compte que l'on n'est pas dans une bonne logique, que l'on n'est que dans une logique de j'ai fait, je veux quelque chose en retour. De la même manière dont on se comporterait avec les gens. Dans un commerce, dans un deal quel qu'il soit. Je donne et j'attends en retour quelque chose. Le double, sinon le triple, ou à la limite quelque chose de similaire. Quand est-ce qu'on se rend compte que l'on est dans cette logique? Quand on fait une faute. Les gens bien, les gens croyants, quand ils font des fautes, aussi graves soient-elles, comptent automatiquement sur la clémence de Dieu. Ils ont très bon espoir en Dieu. C'est ce qu'on appelle « raja » en langue arabe. Raja, attention, il y a Raja et Tamanni. L'amal et Raja, c'est pratiquement la même chose. Mais Tamanni, c'est le fait d'attendre quelque chose sans effort. L'espérance, c'est le fait d'attendre quelque chose en ayant fourni un effort préalablement. L'adhi yarjuhu al-mu'min. Ça me rappelle ce fameux hadith qui est soumendan sahuhawaha. À l'inverse, celui qui est, on va dire, nié, c'est celui qui ne fait rien.
Très bien. Alors, est-ce que c'est pas lorsque quelqu'un d'entre nous commet une faute, il est tellement sûr que Dieu ne lui pardonnera pas, donc il prend cette distance, donc ne compte plus sur le pardon de Dieu?
Vous savez, c'est un sujet très délicat dans la mesure où nous vivons à une époque où les choses ont tellement évolué dans le mauvais sens qu'il n'est plus permis, quand on est dans cette position de connaisseur de la religion, quand on est dans une position qui permet de donner des conseils aux autres, du moins au niveau des connaissances uniquement, pas sur le plan, parce que quiconque donnerait des conseils n'est pas forcément à la hauteur des conseils qu'il donne. Quand je dis que c'est un peu délicat, c'est parce que Nous sommes vraiment arrivés à cet adage qui disait « Laysa kullu ma yu'araf wa law kana min ash-shar'i yuqal ». Je pense que c'est l'imam Sahib al-Muwafaqat, l'imam Shatibi qui disait cela. Tout ce qui se sait ne se dit pas. Je vais faire d'abord une digression avant de répondre à votre question. Nous sommes au mois de Ramadan. Si quelqu'un venait à rompre délibérément le jeûne, qu'est-ce qu'il est censé faire ? Procéder à une kfara, à une expiation. L'expiation en elle-même consiste en quoi ? Affranchir un esclave, ce qui n'existe plus, jeûner 60 jours consécutifs, ou bien nourrir 60 nécessiteux. Dans le hadith de Bukhari, quand l'homme est venu dire cela au messager de Dieu, « Qala halaktu ya Rasulallah, qala wa ma ahlaka, que je suis perdu et qu'est-ce qui t'a perdu ?» Et l'homme a dit, j'ai eu une relation intime avec mon épouse pendant le jour, pendant la période d'abstinence. Le messager de Dieu, alayhi sallam, lui a dit, « I'tiq raqaba, affranchis un esclave. » L'homme a dit, je n'ai pas d'esclave. D'accord, jeûne deux mois consécutifs. Il a dit, d'entrée de jeu, hein, aussitôt, illico presto, il dit, ah, je ne peux pas. Le messager de Dieu, alayhi sallam, lui dit, nourris donc 60 nécessiteux. Et à l'homme de dire, je n'ai pas cela non plus. Au bout d'un moment, on amena au messager de Dieu un contenant, appelé en langue arabe « arq ». Ce contenant, vous savez, c'est les fameux paniers qu'on met sur les dos de chameaux et qui font, en unité de mesure, ils font 60 mouds, 60 muis, c'est-à-dire 60 poignées généreuses. On lui rapporta donc un sac de dattes. Il lui dit « Tiens, prends cela ». Et distribue-le à 60 nécessiteux. Il n'y a pas dans l'enceinte de Médine plus pauvre que nous. Là, le messager de Dieu, il est dit, il rit jusqu'à ce que ses molaires apparaissent. Donc, l'homme, alors non seulement il a rompu délibérément Ramadan, mais en plus, il s'est fait aumône à lui-même avec ce qu'on lui avait donné. L'affaire est plus que bonne, en somme toute faite.
Donc ça trouve quand même naissance dans ce hadith, puisque dans les familles kabyles, on dit « Sadaqa fizwalt gathwukham »« Sadaqa tzbakh sahabin dar »« Fmalin dar »
Là, ça rejoint un autre principe coranique « Wal-aqrabuna aula bil ma'ruf » Ça veut dire quand vous donnez une aumône, vous commencez par votre entourage immédiat.
D'accord.
Sahab dar, vous n'allez pas chercher quelqu'un à 10 000 kilomètres alors qu'à côté de chez vous, il y a un pauvre, ou bien un proche parent est pauvre ou dans le besoin. J'ai lu même une version de ce hadith où le messager de Dieu a dit « Si d'aventure cet homme pouvait avoir l'équivalent de ce qu'il vient de recevoir, il devrait le donner à des nécessiteux pour s'acquitter réellement de son expiation, le kafara. » Donc, dans ce hadith, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, n'a pas obligé le monsieur à aller au moins, il n'avait pas d'esclave. Il lui a pas dit, bon, va quand même, essaye de jeûner 60 jours consécutifs, si tu ne peux pas, reviens me voir. Non, il lui a donné un choix. Certains savants sont d'avis qu'il faut procéder selon l'ordre établi par le messager de Dieu. D'autres leur diront non. Le messager de Dieu, tout porte à croire qu'il lui a donné le choix. Il n'a même pas essayé de l'obliger, comme je viens de le dire. D'autant plus que l'imam Malik rapporte ce même hadith avec une autre version. L'homme qui est venu n'a pas dit « j'ai eu une relation intime », il a dit « aftartu fi Ramadan », »,« j'ai rompu le jeûne délibérément ». Et là, le messager de Dieu lui dit « i'tiq raqaba » ou « sum shahrayn mutatabi'ayn » ou « at'im sittina miskinan ». Donc, affranchir un esclave ou bien jeûne 60 jours consécutifs, ou bien nourrit 60 nécessiteux. L'imam Malik, qu'est-ce qu'il a choisi dans ces trois mesures? L'imam Malik préfère la nourriture de 60 nécessiteux. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que non seulement de ce fait vous allez expier une faute, mais vous allez apporter un bien-être à d'autres personnes. Et le bien qui profite à beaucoup vaut mieux que le bien qui ne profite qu'à une seule personne. L'homme en question, ou bien la personne qui se trouverait dans ce cas, aurait jeûné 60 jours consécutifs. C'est tout bon pour elle, mais ça n'est bon que pour elle. Alors que la nourriture de 60 nécessiteux vaut beaucoup mieux d'un point de vue social. D'accord. Yahya ibn Yahya al-Layti, le berbère d'Andalousie, ibn Wislasen, qui était l'un des meilleurs disciples de l'imam Malik. Il est parti d'Andalousie. Bon, pourquoi il est berbère? Parce que c'est sur les 12 000 hommes qui sont partis en Andalousie, parmi les Arabes qui étaient venus d'Orient, parce que les Arabes ne sont pas restés ici finalement, ils ne sont pas repartis ailleurs, ils ont laissé des colonies de musulmans. Sur les 12 000, il n'y avait que 300 Arabes selon certains historiens. C'est pour ça qu'il s'est trouvé en Andalousie beaucoup de berbères. Et quand il est allé étudier chez l'imam Malik, il y a eu une année où on a ramené en guise d'attraction à Médine un éléphant, le fil. Et vous savez, les Arabes étaient fascinés par l'éléphant. L'éléphant, c'était un outil de guerre utilisé par Abraha l'Abyssin pour essayer de détruire le Kaaba. Donc, quand l'éléphant est arrivé, on a entendu des gens dire « L'éléphant est là, l'éléphant est là ». Il paraît que tous les disciples de l'imam Malik sont allés courir pour regarder l'éléphant, pour voir. Certains d'entre eux ne voyaient un éléphant pour la première fois de leur vie. Et tout le monde est sorti, sauf Yahya ibn Yahya al-Layti. Et l'imam Malik lui dit, et toi, tu vas pas voir l'éléphant? Il lui a dit, moi, je suis venu ici à Médine pour te voir, toi, pas l'éléphant. Et depuis ce jour-là, il suscitait l'admiration et le respect de l'imam Malik. Et finalement, vous savez qu'il y a le Muwatta, il y a plusieurs versions. Mm-hmm. Je ne sais pas, peut-être une centaine. Mais en tout cas, il y a plus d'une trentaine de versions. La plus longue, c'est celle de Al-Qa'nabi, l'un des disciples de l'imam Malik. Et il y en a même une qui est celle de l'imam Sahib Abu Hanifa. Alors, quand on dit Abu Hanifa wa Sahibay, on parle de Al-Qadi Abu Yusuf et d'Abu al-Hassan al-Shaybani. Abu al-Hassan al-Shaybani, qui était un hanafite, avait étudié auprès de l'imam Malik et avait sa propre version de l'Muwatta. Le Muwatta, quand il a commencé, il comptait 300 000 hadiths. Quand il a fini, terminé avec Yahya ibn Yahya al-Layti, il ne compte que 1448 sentences, parmi lesquelles se trouvent des hadiths, des fatawa ou des avis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des avis de l'imam Malik. Yahya ibn Yahya al-Layti, donc l'un des meilleurs disciples de l'imam Malik, quand il est retourné en Andalousie, il s'est trouvé face à une polémique. L'un des émirs de l'époque avait eu une relation intime avec l'une de ses concubines pendant la période d'abstinence. Et voilà que les savants de l'époque, alors il est venu, ah, se lamentant, voilà, j'ai rompu le ramadan. Est-ce qu'il était sincère ou pas? On ne peut pas le dire. Mais en tout cas, il a soumis le problème à l'ensemble des théologiens de l'époque. Et on lui a dit, bah, l'affaire, elle est banale, somme toute faite. Nourrissez 60 pauvres, Altesse, et vous vous acquitterez, vous expirez cette faute. Yahya ibn Yahya al-Layti est venu, il leur a dit non, ça ne marche pas. Et il faut qu'il jeûne 60 jours consécutifs. Ah bon, mais le messager de Dieu a laissé ça au choix, l'imam Malik a dit ceci. Oui, ben, l'imam Malik a dit cela, mais...
Du cas par cas, encore une fois.
Pas pour lui. Parce que si pareille chose venait à être publiée, plus aucun riche, plus aucune personne bien nantie ne respecterait le ramadan. Mm-hmm. Donc il doit jeûner 60 jours consécutifs pour expier sa faute, plutôt que de nourrir 60 nécessiteux. Et en plus, puisqu'il est régent, il devrait yqdi l'yom alladhi aftara fih, dans l'une des versions qui sont rapportées sur cette anecdote. Alors, ceci est une digression pour revenir à la question que vous avez posée. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a attendu des gens qui, dans une chute, s'éloignent encore un peu plus de Dieu?
Mm-hmm. Parce que, excusez-moi Kamal Chakat, Ibn Atta'il al-Sakandari parle de Nuqsan al-Raja. Et on sait que Nuqsan al-Raja yu'addi ila al-qunut wal-ya's. Oui. Dieu avait dit à Yaqub. Il l'avait dit aussi à ses enfants, Sidna Yaqub alayhi salam.
Oui.
D'accord. Donc, Nuqsan al-Raja pourrait nous amener à quelque chose de pas bien.
Oui, absolument.
Cet éloignement de Dieu.
Mais il faut, mais nous sommes, non, la question à la manière dont vous l'avez formulée tout à l'heure m'a fait parler de cette anecdote. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi à une époque où nous ne devrions pas donner trop, on va dire, trop de mou, de sorte à ce que les gens se laissent aller. Vous comprenez? Il est vrai que Raja fillah, l'espérance en Dieu est de toujours de mise, mais il ne faudrait pas uniquement aller dans ce sens.
Cheikh Zarouk, dans sa traduction, dans son interprétation des aphorismes d'Ibn Atta Illa Sakandari, classe les humains en trois catégories. Alors, il dit, Nasu thalatha, mu'tamidun 'ala 'amalihi wa mawqifuhu at-taqsir wa ghayatuhu at-tashmir wa maqamuhu al-islam li dawaranihi ma'a al-'amal raja'an aw khawfan.
Alors, nasu thalathatun. Il y a trois catégories de gens. Mu'tamidun 'ala 'amalihi, quelqu'un qui ne compte que sur son action. Donc, en fait, il n'est pas à la hauteur de l'action elle-même. Tashmir, c'est le fait de retrousser les manches. Mais je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas la liaison qu'il y a entre ces deux bribes. وَمَقَامُهُ الْإِسْلَامُ Donc, il est au stade de l'islam, il n'a pas encore atteint la foi et le bel agir. C'est-à-dire qu'il est, il est dans cette position en fonction de l'action elle-même.
Ses attentes pour Dieu.
Ses attentes pour Dieu ou bien sa peur de Dieu carrément. Khawfan. Mm-hmm. Oui.
La deuxième,
mu'tamidun ala, lisez, mu'tamidun.
La deuxième, wa mu'tamidun ala fadlillah.
Donc quelqu'un qui compte sur la grâce de Dieu.
Wa mawqifuhu shuhudul minna.
Donc il est dans une position qui fait qu'il apprécie le bienfait de Dieu.
Il reconnaît, oui. Bien sûr. Wa ghayatuhu at-tabarri min al-hawl wal-quwwa.
Donc oui, alors non seulement nous sommes face à une catégorie qui est elle-même dans l'action, mais il ne s'attribue en cela aucun mérite. C'est-à-dire que quand bien même il déplacerait une montagne, le mérite reviendrait à Dieu. Ce qui me fait penser à Sidna Ismail, alayhi salam, quand Ibrahim lui dit « Inni araf il manami anni adbahuk fandur madatara » Je me vois en songe en train de t'immoler. Vois en la question ce qu'il y a à voir. « Qala ya abati fa'al ma tu'mar » Ou « Mon père, fait ce qui t'est commandé. »« Satajiduni incha'allahu minas sabirin » Tu me trouveras, si Dieu veut, parmi les endurants. Ça veut dire que même dans cet acte héroïque, il ne s'attribue aucun mérite. Tout le mérite reviendrait à Dieu.
Parce que Tawfiq vient de Dieu, subhanahu.
Absolument.
Alors, wa ma'tamidun ala fadlihi ala fadlillahi ta'ala wa mawqifuhu shuhudul minna wa ghayatuhu at-tabarri min al-hawli wal-quwwa wa maqamuhu al-iman.
Oui, il est là, on est dans une position
de la foi. Li dawaranihi ma'a al-qudra fi iqbalihi wa idbarihi.
Donc, alors que le premier gravite autour de l'action dans l'espoir et la peur, celui-là gravite les dawaranihi ma'a
al-qudra.
Celui-là gravite autour de la capacité autant divine que la sienne à faire
d'accord.
quelque chose, mais les dawaranihi ma'a fi iqbalihi wa adbarihi, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend de faire et dans tout ce qu'il délaisse.
Donc la citation de Junaid, que la foi en Dieu, c'est de le voir un peu partout, dans chaque situation, dans chaque chose de l'univers.
Oui, et là, attention, là, les super-rigoristes, surtout ceux qui se réclament du matralisme et du wahhabisme, vous direz, il y a sahad al-kalam fihi kufr, où là, vous êtes en train de parler de wihdat al-wujud, l'incarnation divine en tout, ou bien... vous savez, quand on dit à telle enseigne qu'une fois, il y a quelqu'un qui a dit, vous savez, même Ibn Taymiyyah a fait des erreurs. Il qala bi wihdati al-wujud. Ah bon? Parce qu'à un moment donné, il dit, ma shaytu wal-qamar. Alors ça veut dire tout simplement, c'est pas j'ai marché avec la lune. Ça veut dire tout simplement j'ai marché sous le clair de lune. Mashaytu al-qamar. Et cet ignare a pris le morphème waw comme quelque chose qui dit non, j'ai marché pratiquement, j'ai fusionné avec la lune. Malheureusement, c'est ça le problème. Et nous l'avons déjà expliqué. Vous savez, quand on étudie bien l'aqaïd ou bien l'aqida, les différences qui existent entre tous les savants. Vous prenez quelqu'un comme Shatibi qui était malikite, Ash'arite. Et vous prenez quelqu'un comme Ibn Taymiyyah qui était hanbalite et qui se réclamait du salafisme. C'est l'une des premières icônes du salafisme, un vrai salafisme, pas le dévoiement que nous sommes en train de voir actuellement. Il démarre d'une question centrale. Il faut avoir des cheminements diamétralement opposés pour se rejoindre en fin de compte en termes de résultats. Il est le même. Et le problème, c'est que nos amis ne regardent pas tout cela. Ils ne vont pas s'intéresser à la question centrale et à sa conclusion. Ils vont beaucoup plus s'intéresser au cheminement que va prendre chacun des deux. Ils vont taxer l'un de conforme à la tradition et de l'autre et l'autre d'innovateur. Alors que les choses ne sont pas ou ne se prennent pas avec autant de facilité.
Alors, Kamal Chakat, un des rigoristes que vous venez d'évoquer a une fois questionné le Junaïd al-Baghdadi. Donc, allant vers lui demandant, « Ya Abul Qasim, hala ra'aytum rabbakum hina abattumuh am i'taqadtum al-wusul ilayhi biqulubikum ?» Faqala al-Junaïd radiyallahu anhu.
Alors, traduisons pour les gens. « Ya Abul Qasim, avez-vous vu votre Seigneur quand vous l'avez adoré ?»«
Am i'taqadtum al-wusul ?»
Ou bien pensez-vous l'avoir atteint par vos cœurs?
Et le Junaïd répond, Ayyuha sa'il ma kunna lina'buda rabban la nara.
Alors toi, celui qui interroge, nous n'aurions pas eu à adorer un Dieu que nous n'aurions pu voir.
وَمَا كُنَّا بِالَّذِي تَرَاهُ أَعْيُنَنَا فَنُشَبِّهُهُ وَمَا كُنَّا بِالَّذِي نَجْهَلُهُ فَلَنُنَزِّهُهُ
وَمَا كُنَّا بِالَّذِي تَرَاهُ أَعْيُنُنَا. Et il n'était pas et cet être divin que nous avons vu n'est pas tel à ce que l'on a à ce qu'on puisse l'apercevoir avec nos yeux de sorte à le décrire, à lui donner une forme. Et il n'est pas tel à ce que l'on puisse l'ignorer de sorte à ce que nous ne puissions
lui donner un piédestal
c'est-à-dire le dégager de tout ce qui pourrait l'assimiler à quelque chose
donc de déjà connu.
Oui,
d'accord. فقال له الرجل فكيف رأيتموه.
Alors comment l'avez-vous vu ou observé?
فقال له الجنيد لن تراه الأبصار في هذه الدار بمشاهدة العيان.
L'œil ne peut le voir dans cette vie d'ici-bas, dans cette demeure comme ça ne peut avec une constatation de visu. Mais ce sont plutôt les cœurs qui l'atteignent, qui le connaissent ou qui arrivent à l'apercevoir avec grâce à la certitude. حقائق الإيمان.
ثم تترقى من المعرفة إلى رؤيته بمشاهدة أنوار المنن والعطايا والإحسان.
Puis tu vas gravir l'échelle en
une
quelque
élévation.
Sorte, tu vas transcender tout cela
jusqu'à
être à même de le voir avec ce que dégage justement cette entité divine
en matière de
minan wal ataya, c'est les dons.
C'est un don de Dieu.
Oui, manna alaykum, c'est la grâce, c'est ce qu'il nous a donné gracieusement.
Alors anwar al minan wal ataya wal ihsan.
Oui.
L'ihsan, c'est l'excellence là, non, c'est prix.
L'ihsan ici c'est la bienséance, la générosité.
Très bien. Fa huwa subhanahu mar'i bil haqa'iq al qudusiyya.
Alors il est exalté soit-il aperçu ou perçu de par des vérités immuables, on va dire. C'est le fait d'arriver à entrevoir Dieu en quelque sorte, ou du moins si je me puis m'exprimer ainsi, grâce à tous les signes qui indiquent qu'il y a un architecte en quelque sorte derrière toute cette complexité qui nous entoure en termes de création.
فهو سبحانه مرئي بالحقائق القدسية منزه عن الصفات الحدثية.
Le muhdath, c'est ce qui est nouveau en quelque sorte, ce qui est contemporain, ce qui est venu avec ce monde.
Alors que Dieu existe depuis l'azali,
oui. Voilà, ça n'a rien à voir.
مقدس بجماله مهيب بجلاله.
Oui, là on parle de la beauté de Dieu, oui, la majesté de Dieu, le fait qu'il soit parfait, complet, oui. Très difficile
des attributs sur lesquels est revenu Najm al-Din Kubra. متفضل على القلوب مقدس بجماله مهيب بجلاله منعوت بكماله متفضل على القلوب بمواهبه ونواله معروف بعدله منعوت بفضله.
Décrit pour sa générosité, le fadl ici c'est la générosité.
معلوم بحكمته.
Oui, connu pour sa sagesse.
فاطر السماوات والأرض.
Créateur des cieux et de la terre.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
Rien ne lui ressemble, il est audient et voyant.
ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل.
Rien ne lui ressemble, rien ne pourrait lui être assimilé, rien ne pourrait lui être se rapprocher de lui.
ولا كفوا. Et puis là il cite قل هو الله أحد.
Oui, il n'a pas donc d'équivalent ni d'homologue.
فقبل الرجل يده ورأسه ثم انصرف. Le rigoriste.
Heureusement. Bah, il aurait connu des super musulmans de bas étage d'aujourd'hui, ils n'auraient pas agi de la sorte.
On aurait pu trouver aujourd'hui quelqu'un qui ait répondu de la sorte aux rigoristes qui sont parmi nous, Kamal Chakat.
Il est là le problème. Il y en a beaucoup qui pourraient répondre de la sorte, mais qui ne le feraient pas.
Qui préfèrent se taire, pourquoi ?
Qui préfèrent se taire parce que...
Et d'a khatabahum al-jahiloun aqalou salama ?
Non, même pas ça.
Pourquoi ?
Je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation parce qu'ils en ont tout simplement marre. Mm-hmm. Et... comme c'est une tendance, on parle de cette mauvaise école de ce réclamant de l'islam, comme elle a tendance à se propager tel un métastase.
Le matralisme ?
Oui, dans la société musulmane. Il y a beaucoup de gens pieux, vertueux, de parfaits connaisseurs de la religion qui se sont carrément retirés, qui ne font plus de prêche, qui ne font plus rien, tellement... ils ont été acculés, agressés, molestés, malmenés par ces voyous. C'est une question qu'il aurait fallu prendre à bras-le-corps au tout début. Malheureusement, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, beaucoup d'hommes très très sages nous disaient « ce sont vos frères, il faudrait se montrer patient, ils sont fraîchement arrivés à l'islam ». Et même quand on discutait avec ces gens-là, beaucoup d'entre eux nous disaient « Oui, ahna kunna fil jahiliya. Parle pour toi, mon frère. Moi, j'ai jamais vécu la jahiliya dont tu parles. J'ai toujours été musulman, né dans une famille de musulmans avec ses qualités, ses défauts. Mais nous avons toujours été musulmans et nous avons toujours eu... enfin, nous sommes toujours restés dans une norme plus ou moins acceptable. »
Et ces fautes, Kamal Chakat, ne nous font pas tomber dans la disgrâce. Parce que pour suivre cette maxime d'Ibn Atta'il al-Sakandari, la leçon que je tire moi de cette maxime, c'est qu'il y a ce qu'on appelle tawba, l'istighfar. D'ailleurs, Mustafa al-Bihyawi dit que l'istighfar ou tawba, il y a rabdat al-atfal ou il y a doctorat.
C'est le premier maqam. C'est quelque chose qui va vous accompagner toute la vie.
Bien sûr.
Vous apprenez à vos enfants qu'est-ce qui fait office de Dieu quand on est enfant. C'est le père. Le père va vous enseigner que voilà, quand tu fais une erreur, tu me le dis. Si tu me le dis, il y a plus de chances que je te pardonne que je ne te punisse. Mm-hmm. Et on apprend cela avec le père, qui est l'icône par excellence, qui est l'homme le plus fort, le plus sage, le je ne sais quoi. Quand on a 3 ans ou 4 ans, rien ne peut supplanter le père. Nous n'avons pas en nous cette notion de Dieu qui est supérieure au père. À moins que votre père ne vous l'enseigne. Donc vous apprenez.
Et de quelle façon ?
Oui, et donc vous apprenez à, normalement, à avoir une notion de la repentance, du repentir, du rachat de la faute, dans ce sillage. Donc ça commence en bas âge, et ça devient une constitution intérieure vers la fin, enfin, quand on a atteint l'âge de maturité. En tout cas, quelles que soient les fautes des gens, Dieu est toujours prompt autant à punir qu'à absoudre les gens. Mmh. Ça, c'est une réalité. Même que sa miséricorde a précédé sa colère. C'est Dieu qui nous le dit dans un hadith qudsi. سابقه رحمتي عذابي
donc غضبي
oui donc c'est sur cela quand on a perdu cette notion on va automatiquement s'éloigner de Dieu. Mais là encore, comme je disais...
Excusez-moi juste, l'attribut divin que Dieu a choisi le jour de la résurrection, c'est...
Rahman.
Pourquoi, justement ?
Rahman al-dunya wal-akhirati wa rahimahuma. Pourquoi ? Et il y a des hadiths où il est dit que quand Dieu a créé la miséricorde, il l'a divisé en 100 unités, en 100 parties. Il en a laissé une pour ce bas monde, et c'est grâce à ce bout de miséricorde divine que même les bêtes féroces montrent de la compassion envers leur progéniture. Voyez, c'est un crocodile,
il paraît que ça... Il n'écrase pas leurs petits.
Oui, ça a une mâchoire terrible. Et pourtant, vous voyez un crocodile portant toute sa progéniture dans sa bouche.
La lionne, hein.
La lionne, etc. Et donc, Dieu, subhanahu wa ta'ala, a laissé 99 parts de cette miséricorde pour le jour du jugement dernier. Pourquoi ? Parce qu'en ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala entrera en une colère intense comme jamais auparavant. Et cette colère nécessitera autant de miséricorde. Parce que c'est la reddition des comptes. Les gens sont là pour rendre des comptes. Mais pour revenir justement, parce que tout à l'heure j'ai quand même oublié de répondre enfin à une question qui me tenait à cœur quand j'ai fait cette digression en parlant de Yahya ibn Yahya al-Wislasem dans cette affaire du jeûne. Là, de nos jours, nous devons faire comprendre aux gens qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Par exemple, nous sommes au mois de Ramadan. Que vaut honnêtement toute l'adoration que vous vouez à Dieu si vous ne faites pas la prière, qui est le pilier de tout? Ça ne vaut rien. Certains sont allés jusqu'à dire aux gens comment pouvez-vous dire cela? Même si c'est vrai en partie, fondamentalement c'est vrai, mais personne ne peut dire cela mis à part Dieu. Les gens, nous les exhortons à jeûner en dépit de cela. Il est dit que quiconque boit du vin se voit refuser sa prière pendant 40 nuits. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, va dans une taverne ou dans un bar, il est assuré que pendant les 40 nuits à venir, il n'y a pas lieu qu'il fasse la prière, elle ne sera pas acceptée. C'est un hadith du messager de Dieu, un hadith authentique qui plus est. Et nous y croyons fermement, tout comme nous croyons au Coran. Mais est-ce que nous avons le droit de dire à quelqu'un qui, la veille, a bu du vin, « Non, non, ne va pas faire ta prière. Vous ne pouvez pas le faire, nous n'avons pas le droit de le faire. » Mais nous sommes quand même dans le devoir d'expliquer aux gens que là, notre relation avec Dieu n'est pas un amusement, c'est pas un jeu. Elle ne doit pas se faire dans la demi-mesure. On ne joue pas avec Dieu, tout simplement. Mais d'un autre côté, nous devons rester dans une forme d'équilibre qui essaye de faire, ou qui exhorterait les autres à garder, ne serait-ce qu'un faisceau avec Dieu. C'est-à-dire que par moments, je me retrouve dans une logique qui me dit que voilà, un tel n'est pas du tout au point en termes de comportement et d'assiduité au culte. Cependant, même s'il consomme de la drogue, même s'il boit du vin, s'il veut faire sa prière, je l'encouragerai à faire sa prière. Cependant, je resterai un peu sur son dos en lui expliquant de temps à autre que voilà, le fait que tu fasses ta prière ne te dédouane aucunement. Le fait que tu fasses ta prière ne te décharge aucunement des manquements dont tu es l'auteur.
Ce que vous dites là rejoint un petit peu cette maxime d'Ibn Athaillah al-Sakandari, من اعتمد على العمل نقصان الرجاء عند وجود زلل.
Quand on s'adressait à Rijal Salaf, les pieux prédécesseurs, quand on leur disait par exemple, comment sais-tu si tu es au beau fixe avec Dieu ou pas? Comment sais-tu si tu es réellement un adorateur qui est obéissant à Dieu? Il disait, je mesure cela à l'obéissance que pourraient avoir mon épouse et mes enfants envers moi,
et même, la bête,
et même hein. à la bête que, ouais. que j'ai. C'est-à-dire que si la personne a un chien qui aboie quand il le voit, s'il a un âne qui essaye de lui donner un coup de sabot, il va aussitôt réfléchir sur ça, méditer la chose et se dire « Ah, si pareille chose m'arrive, c'est que moi-même, je ne suis pas obéissant à Dieu. » Et là, on est dans cette même logique. Comment savez-vous si vous êtes réellement sur la bonne trajectoire en termes d'action ?
À travers les grâces de Dieu ?
À travers votre réaction face à ce que vous-même faites. Une personne qui agit bien va bien agir en se disant que tout cela, c'est grâce à Dieu. « Hada min fadlillahi alayhi ». Une personne qui est plus ou moins en porte-à-faux va dire « Oui, je suis méritant, je suis un héros et Dieu doit être super heureux et super content de moi. » Ça ne devrait pas se dire, mais il y en a beaucoup d'entre nous qui le pensent. Et donc, comment savez-vous si vous êtes dans la bonne ou la mauvaise trajectoire ? C'est quand vous faites la faute. Les gens bien, ceux qui agissent bien généralement, dès qu'ils font la faute, ils vont se repentir à Dieu. Parce qu'il compte sur sa miséricorde.
Ceux qui
comptent essentiellement sur l'action, ceux qui ont d'eux-mêmes l'image d'un super-héros, parce qu'ils comptent sur l'action et non pas sur Dieu, ils vont se détacher un peu de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peut-être la pudeur ou parce que, je ne sais pas moi, ma chère, je ne peux pas me mettre dans la peau de tout le monde, mais en tout cas, c'est là une réalité. Par moment, il y a des gens qui ne savent pas en quoi consiste la miséricorde divine. Quand vous leur dites, allez, ils vous disent, tu sais, Anidel, moi, je fais les 400 coups et là, tu me demandes d'aller me mettre face à Dieu. Oui, mais justement, mets-toi face à Dieu.
Le prophète nous exhorte justement à l'estighfar, à la tauba.
Oui, absolument.
Il a même dit que si vous ne péchiez pas, Dieu aurait créé une communauté qui... وَجَاءَ
بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ. Des gens qui feraient des fautes, qui se repentiraient et dont Dieu accepterait le repentir.
Donc il faut qu'on continue dans l'accomplissement des péchés et des fautes, Kamal Shekat ?
Non.
Puisque c'est souhaité.
Non, c'est pour vous montrer la miséricorde de Dieu et que Dieu ne ferme jamais la porte de la repentance à qui que ce soit.
Un jour, elle sera fermée.
Oui, un jour, elle sera fermée. Ça, c'est l'un des signes majeurs de la fin des temps. Mais pour chacun d'entre nous, il y a une limite qui montre qu'elle a été fermée. Dieu accepte le repentir de chacun d'entre nous, mais l'âme yugharghir, tant qu'il n'a pas gaspé, tant que l'âme n'est pas sortie.
Donc la qiyama de l'être humain, c'est ça.
La petite qiyama, comment ?
Eh bien, merci à vous, Kamal Shekat. Merci pour toutes ces informations, tout ce savoir et ces connaissances, puisque dans le soufisme on parle de connaissances. Et on terminera avec une des discussions de Ibn Ata'illah al-Sakandari, discussion intérieure avec Dieu Subhanahu. C'est d'ailleurs la dernière partie de son livre Al-Hikam, c'est la partie Munajat où il dit « Ilahi ana al-faqiru fi rinaya, fa kayfa la akunu faqiran fi faqri, ilahi ana al-jahilu fi ilmi, fa kayfa la akunu jahilu ». في جهلي إلهي وصفت نفسك باللطف والرأفة بي قبل وجود ضعفي أفتمنعني منهما بعد وجود ضعفي. Merci beaucoup à vous, merci de nous avoir suivis. Sahasiyamkom, au revoir. Thank you.
ولكن الناس كم يلقونني.